Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors d'une interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope.
Je suis en live, en direct de chez Webedia avec Bertrand Amard. Bertrand Amard, c'est le spécialiste et le directeur des contenus audiovisuels de Webedia. Webedia, c'est le site leader de tout ce qui est loisirs et, j'allais dire, entertainment online en France.
Alors, Webedia, c'est un éditeur de sites internet, avec des marques beaucoup plus connues que la marque Webedia. Les marques, c'est notamment Allociné, jeuxvideo.com, Pure People, 750 grammes. Voilà, donc sur différentes thématiques, des thématiques de passion, le food, le gaming, le lifestyle, le cinéma. Webedia est très présent sur le gaming depuis quelques années avec jeuxvideo.com et a accéléré sur l'e-sport en 2016 avec plusieurs acquisitions, la Coupe du monde des jeux vidéo, le SWC et une société dont je suis un des fondateurs qui s'appelle Bang Bang Management, qui gère des carrières de champions et de personnalités liées au monde de l'e-sport.
Donc toi, tu gères des live talents, en fait, c'est ça?
Une de mes activités ici, c'est effectivement de gérer des talents e-sport. Ce qu'on appelle talent en e-sport, ça peut être soit un joueur, soit un commentateur, un caster, soit encore un streamer, c'est-à-dire une personne qui s'exprime en live, comme on est en train de le faire, surtout sur Twitch. Ça, c'est un petit peu les grandes personnalités de l'e-sport qui ont besoin d'être accompagnées dans leur carrière sportive, mais également dans leur développement médiatique et business.
On parle d'e-sport, donc dans les grands talents que tu as avec toi, autour de toi.
Si je dois vous présenter un petit peu les talents avec lesquels on travaille, vous parlez déjà de Bruce Granek, puisque c'est avec lui que j'ai un petit peu démarré dans cette aventure e-sport en 2012, puisque moi je produisais avant beaucoup d'émissions de télévision qui parlaient du jeu vidéo en général, l'actualité du jeu vidéo, et on parlait d'e-sport. Je me souviens de reportages lors de la première OSWC à Poitiers au Futuroscope en 2003, ou encore toujours sur le SWC à Bercy en 2006. Donc c'est quelque chose que je suivais vraiment d'un point de vue journalistique et extérieur. Et puis en 2012, j'ai fait la rencontre de Bruce Granek, qui à l'époque était déjà deux fois champion du monde de jeux de foot sur console. Depuis, il a gagné deux autres titres. C'est le e-sportif français le plus titré. Il a été quatre fois champion du monde. Et en fait, on a décidé autour de lui de créer cette société, donc Bang Bang Management, pour finalement le rendre plus connu, le médiatiser à la hauteur de son statut de champion du monde, alors que personne ne le savait. Et finalement, on s'est aperçu que ça intéressait les médias. Il y a eu des portraits de lui aux 20h de TF1, de France 2, des articles conséquents dans Le Parisien. On a vu que avec l'e-sport, les médias, tout d'un coup, n'avaient plus de scrupules à parler de jeux vidéo. Moi qui essaie de faire des émissions de jeux vidéo depuis 20 ans, je vois qu'il y a souvent une réticence des chaînes de télé.
Toi, t'as fait sortir un peu la catégorie, c'est ça?
Et ben voilà, c'est-à-dire que dès lors qu'on parle...
T'as été accoucheur de catégorie.
Dès lors qu'on parle plus de jeux, mais qu'on parle de personnes, qu'on raconte des aventures, des portraits de champions, ça intéresse plus facilement les médias. Et donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour enfin donner plus de place aux jeux vidéo à la télévision grâce à l'e-sport. On a commencé à produire un documentaire sur son parcours en Coupe du Monde à Dubaï en 2012, qui est passé sur l'équipe, etc. Et puis on a développé, on a eu d'autres talents, et puis on a commencé à développer des émissions comme l'année dernière sur l'équipe 21, l'eFootball League, qui était la première émission d'e-sport sur une chaîne hertzienne en prime time tous les vendredis soirs. Voilà, donc ça, on peut dire que tout a démarré avec Bruce Granek. On fait de l'e-sport mobile, il y a une grande scène qui est en train de naître avec des jeux mobiles comme Clash Royale, Hearthstone ou autres, dont on fait des jeux mobiles. On fait de l'e-sport sur console, avec par exemple FIFA ou les jeux de combat comme Street Fighter. Et on fait de l'e-sport sur PC, bien sûr, puisque le PC reste le terrain de jeu roi de l'e-sport.
Il y a un abonnement, c'est gratuit pour voir ce qui se passe sur Webedia, c'est gratuit.
Twitch est gratuit, c'est-à-dire que Twitch, c'est la plateforme aujourd'hui de référence pour la diffusion d'e-sport. C'est gratuit. Aujourd'hui, la diffusion de l'e-sport est encore gratuite, mais on voit que la question des droits est en train de rentrer dans la discussion. Il y a certains groupes médias qui commencent à acheter des droits. Il y a BAMTech qui vient d'être racheté par Disney, qui, avant d'être racheté par Disney, a fait l'acquisition des droits du jeu le plus suivi, qui est League of Legends. Donc pour le moment, tout ça, c'est gratuit, mais à terme, on peut imaginer qu'il y aura des compétitions pour lesquelles il faudra payer.
Vous organisez des tournois vous-même ou pas du tout? Oui.
Oui, on organise beaucoup de compétitions, puisque dans les acquisitions e-sport de Webedia en 2016, il y a une société qui s'appelle Oxent, qui organise le SWC, donc dont la plus grande manifestation se déroule pendant la Paris Games Week.
Un tournoi de Clash of Clans pourrait-il être organisé à Paris?
Clash of Clans, c'est une très bonne, une très bonne question, puisque Clash of Clans, qui est le précédent jeu de cet éditeur Supercell, c'est un jeu qui a une grosse communauté, qui est aujourd'hui moins joué que Clash Royale, puisque Clash Royale a connu une explosion. C'est un jeu qui joue en équipe, qui a une vraie communauté, et effectivement il y a déjà des tournois. Il y a eu un tournoi e-sport qui a été organisé au stade Jean Bouin. Comme je le disais tout à l'heure, chaque jeu est une discipline.
Est-ce que tu as un conseil à donner pour trouver de l'aide quand on lance une chaîne de cast e-sport sur Twitch?
C'est très difficile, hein. C'est très 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 difficile, parce que comme pour YouTube, c'était plus facile pour les premiers. Aujourd'hui il y a beaucoup de streamers. Faut savoir que avec une simple PlayStation 4, si on appuie sur la touche de la manette share, on devient streamer sur Twitch, hein, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est la régularité, vraiment, c'est-à-dire ne pas streamer une fois par semaine à des heures différentes. Régularité, il faut s'accrocher, et puis si vous êtes bon, si vous avez du talent, les gens vont rester plus longtemps, ils vont revenir vous voir, vont en parler autour de vous. Ça va mettre du temps, mais c'est comme ça.
E-sport et les Jeux Olympiques du e-sport, ça arrive quand ça, les Jeux Olympiques? C'est un gros débat, ça.
C'est un vrai débat, ouais. C'est un vrai débat. Ce qui est sûr, c'est que sport et e-sport se rencontrent de plus en plus. On le voit avec le PSG e-sport, avec Schalke en Allemagne, avec l'OL en France, avec même le FC Nantes, qui ont des structures e-sport, c'est-à-dire des clubs traditionnels qui commencent à prendre des joueurs virtuels. On le voit aussi avec la NBA aux États-Unis, qui va cette année lancer une ligue d'e-sport. On le voit aussi avec la LFP, la Ligue de football professionnel en France, qui a lancé la e-Ligue 1, qui est une Ligue 1 virtuelle sur FIFA. Donc les liens entre sport et e-sport se multiplient. Des exemples comme ça, je peux t'en citer des tonnes. La FIFA qui organise sa Coupe du Monde, la FIFA Interactive World Cup, la FIWC, il y aura de l'e-sport au JO. Maintenant, est-ce que ce sera une discipline officielle? Est-ce que ce sera des tournois en parallèle à l'occasion de Paris 2024? Ça, on ne sait pas.
Handisport et e-sport, ça existe, ça?
Bien sûr, évidemment.
C'est Cynthia qui nous demandait ça.
Ah oui, mais évidemment, puisque sur le sport, sur l'e-sport, une personne handicapée peut avoir d'excellents résultats. Comme pour le sport, il va y avoir des équipements spécifiques ou pas. Hein, une personne qui ne peut pas se déplacer, mais qui a tout l'usage de ses mains, va pouvoir performer. Il y a des équipements qui permettent de contrôler son ordinateur.
Est-ce que les consoles ont remplacé les PC sur l'e-sport ou
ça... Pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas du tout, du tout. Aujourd'hui, chaque plateforme a sa place dans l'e-sport. Le PC, ça va être plus pour des jeux comme League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, voilà. Et même maintenant, Rainbow Six, puisque pour la nouvelle saison, Ubisoft a décidé que la scène e-sport soit uniquement sur PC. Après, sur console, les jeux e-sport sur console, ça va être FIFA, ça va être Call of Duty, ça va être Street Fighter, mais on a également les téléphones avec Clash Royale. Donc on voit que c'est pas la plateforme qui définit la nature, c'est l'usage, c'est la compétition, et que même si historiquement le PC est la plateforme reine, les consoles ont bien progressé.
Qu'est-ce que c'est le cloud gaming?
Alors le cloud gaming, c'est tout simplement fait de jouer à distance. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu ne tourne plus sur votre console, votre ordinateur ou votre téléphone. Il tourne sur un serveur qui est à des dizaines ou des centaines de kilomètres de chez vous. Et simplement, vous pilotez.
Donc c'est un PC dématérialisé.
C'est un PC dématérialisé. Et si tu veux, la puissance des réseaux fait qu'on reçoit l'image tellement vite qu'on ne sent pas. On sent pas que...
Il faut un bon débit, quoi.
Il faut un très bon débit.
Il faut être prêt, quoi.
Il faut être prêt, mais on voit que ça marche.
Il faut jouer en fibre.
Mais on voit que ça marche. Il y a notamment en France une société qui s'appelle Shadow, qui a sorti un PC, qui est en fait un boîtier, qui vous permet de vous connecter à votre PC, qui est un serveur chez eux. L'avantage du cloud gaming, c'est que puisque la puissance n'est pas dans votre machine, mais elle est à l'extérieur, et ben potentiellement avec votre smartphone, vous pouvez jouer à un jeu qui tourne sur un énorme PC, parce qu'en fait vous n'avez que l'affichage de ce jeu qui est là. Donc il y a un énorme potentiel sur le développement du cloud gaming. Ce qui est extraordinaire avec l'e-sport, c'est qu'à la différence du sport, il y a un nouveau jeu e-sport, je vais pas dire tous les jours, mais presque. Alors que des disciplines en sportives, je pense qu'elles sont plus ou moins toutes là. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux sports.
C'est pas fou, ouais.
Donc, à chaque nouveau jeu, il y a des nouveaux mécanismes qui peuvent apparaître, des nouveaux principes d'interaction.
Ouais. Il faut retrouver comment ça peut être fair play aussi, parce que sinon, voilà. Si toute sa team là, c'est un peu compliqué.
Voilà, donc tout est possible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs intègrent ce qu'on appelle un mode spectateur, qui fait que l'exemple que je viens de donner dans Clash Royale, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer, et d'un coup, vous voyez que quelqu'un est en train de regarder votre partie, de plus en plus de jeux permettent d'aller regarder d'autres personnes jouer sans pour autant jouer.
Je crois qu'on peut te remercier. Bertrand _ Amar sur Twitter, donc suivez-le si vous ne le suivez pas encore et pas déjà sur Twitter notamment, et vous allez pouvoir vraiment être à fond immergé dans tout ce qui se passe sur le e-sport.
Merci à toi, c'était cool.
Super intéressant, j'ai appris plein de trucs.
Si cet épisode de Talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant